Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Psachim 68 d'Av Samechet. Bonne écoute et bon limoud.
La suite de cette braïta nous dit Bo'el Nida, celui qui a eu des relations intimes avec une femme en période de menstruation, qui est impure, Ket Mehmet, c'est comme s'il avait touché un mort, il a le même degré d'impureté. Or les mailles, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Il imaletumataam, si nous parlons ici à propos des doigts d'impureté, ce n'est pas possible. Haetumachivaktive, à propos de celui-ci, il est écrit explicitement dans le verset qu'il est impur durant 7 jours. Vehaetumachivaktive, et à propos de celui-là, il est aussi écrit explicitement dans le verset qu'il est impur durant 7 jours. Donc c'est sûr que ce n'est pas cela que ça vient nous apprendre. Et là, mais donc, n'est-ce pas? Les machanotam, ça vient nous parler ici de renvoi du camp et nous dire que celui qui a une relation avec une relation intime avec une femme en période de menstruation est renvoyé du camp, de même que celui qui a touché un mort, c'est-à-dire il est renvoyé du machane shekhina, du camp de la présence divine, c'est-à-dire du tabernacle ou du temple. Umidiseva les machanotam. Et donc, puisque la fin de cette braïta nous parle des lois du renvoi du camp, et reisha nami les machanotam. Donc le début de cette braïta nous parle aussi des lois du renvoi du camp. Et donc lorsque nous disons que le Baal Kri Ke Maga Sheret, que celui qui a eu un écoulement de matière séminale est considéré comme celui qui a touché un reptile, alors ça vient nous parler ici des lois du renvoi du camp, et de même que celui-ci n'est renvoié que d'un seul camp, celui-là aussi. Alors la Gemara répond, Mideire, parlons-nous d'un cas pareil? Non, Hakedeita, Hakedeita. Le début de la Braïta nous parle de certaines lois, des lois d'impureté, et la fin de la Braïta nous parle des lois d'une autre loi, des lois de renvoi du camp. Mais qui veut? Alors la Gemara essaie de poser une autre question. Metzora chamor mizav. Celui, il y a une Braïta qui nous dit que celui qui est lépreux a des lois plus sévères que celui qui a un écoulement. Vezav chamor mitmemet. Et celui qui a un écoulement a des lois plus sévères que celui qui est impur pour avoir touché un mort. Yata ba'al kri. Et ça exclut celui qui a eu un écoulement de matière séminale, Shetmemet Ramour Emenu, dont celui qui a touché un mort a des lois plus sévères que celui-ci, c'est-à-dire que celui qui a eu un écoulement de matière séminale. Alors, la Gemara demande, Ma Yatsa, qu'est-ce que la Braïta vient nous dire, cela exclut? Lav Yatsa, Michlal Zav, Uba Lechlal Shmemet, n'est-ce pas que ça vient signifier que le Baal Kri, celui qui a un écoulement de matière séminale, est exclu de la catégorie de celui qui a un écoulement est rentré dans la catégorie de celui qui a touché un mort et n'est renvoyé que d'un seul camp, Dat Mehmet Chamur Mimenu, car celui qui a touché un mort a des lois plus sévères que celui qui a eu un écoulement de matière séminale, ou Moutar Bemachane Levia, et a le droit de rentrer dans le camp des Lévim, c'est-à-dire ou dans le camp des Lévim qui entourait le tabernacle ou sur le mont du temple. Et donc, si déjà le Tmehmet qui a des lois plus sévères a le droit de rentrer là-bas, à plus forte raison, le Baal Keri. Alors, comment répondre? Non. Et donc, ça refute l'enseignement que nous avons vu plus haut, que le Baal Keri, celui qui a un écoulement de matière séminale, est renvoyé des deux camps. Alors, comment répondre? Oh, non. Yatsa mi machanet mehmet, venichas le machanet zav. En fait, ça veut nous dire que le Baal Keri, celui qui a un écoulement de matière séminale, a été exclu de la catégorie de celui qui a touché un mort, et est rentré dans la catégorie de celui qui a eu un écoulement. Ve'apalgav det mehmet chamor mimenu, et bien que celui qui a touché un mort a des lois plus sévères que celui-ci, Vemutab et Machane Levia, et a le droit de rentrer dans le camp des Lévim ou sur le mont du temple, malgré tout, les mailles de dames les, mais daminan les, on le fait ressembler à ce qu'il ressemble. Et celui qui a un écoulement de matière séminale ressemble plus à celui qui a un écoulement que ce qu'a une personne qui a touché un mort. Et donc c'est pour cela qu'il devra être renvoyé des deux camps. Tane, Tana, Kame de Rabbi Tzrak Barabdimi. Un Tana enseigné devant Rabbi Tzrak Barabdimi. Veyetzel mechutz la machane, il est écrit dans le verset à propos de celui qui a un écoulement de matière séminale, et sortira à l'extérieur du camp, zumachane shekhina. On parle ici du camp de la présence divine, c'est-à-dire le tabernacle ou le temple. Lo yavo el toch hamachane, il ne rentrera pas à l'intérieur du camp, zumachane levia. Ici nous parlons du camp des Lévim qui entourait le tabernacle ou du mont du temple. Et donc, mikan le baal kri, de là nous apprenons que celui qui a eu un écoulement de matière séminale, sheyetzer chutz le shtei machanot, qu'il doit sortir à l'extérieur de deux camps. Amar le, alors Rabbi Tzrak Bar Avdimi lui a dit à ce tana, akate lo ailte, afikte, tu ne l'as pas encore fait rentrer, déjà tu le fais sortir. C'est-à-dire que le premier verset nous dit, et tu le feras sortir à l'extérieur du camp de la shrina. Donc en fait, du camp de la présence divine. Donc en fait, il se trouve dans le second camp, c'est-à-dire dans le camp des Lévim. Et alors à ce moment-là, tu peux lui dire, sors de ce camp. Mais tu ne peux pas lui dire, tu n'as pas le droit de rentrer dans ce camp. Car on ne dit, tu n'as pas le droit de rentrer dans ce camp, une personne qui se trouve à l'extérieur, et tu lui dis, ne rentre pas dans le camp des Lévim. Mais ici, avant de nous parler de la loi pour savoir s'il a le droit de se trouver dans ce camp-là ou pas, déjà tu me parles d'un cas, s'il est sorti, tu me dis, il n'a pas le droit d'y rentrer. Dès que le verset nous parle d'abord, à savoir, est-ce qu'il a le droit de se trouver dans ce Machane Lévim, dans ce camp des Lévim? Lishna Achina, il y a une autre façon d'expliquer la question. Akatedo Afikte Aïlte, tu n'as pas encore fait sortir de ce camp des Lévim, mais déjà tu me dis qu'il n'a pas le droit d'y rentrer. Il se trouve dans le camp des Lévim. Qu'est-ce que tu me dis, il n'a pas le droit d'y rentrer? Lorsque tu me dis, tu n'as pas le droit d'y rentrer, ça veut dire qu'il se trouve à l'extérieur. Mais tu n'as pas encore fait sortir de ce camp. Et là, alors en fait, il faut dire, Michout la Machane, que lorsqu'il est dit dans la CVT, Michout la Machane, il sortira à l'extérieur du camp. Zumachane Lévia, ça nous parle du camp des Lévim. Loyavo el Tocha Machane, il ne rentrera pas à l'intérieur du camp. Zumachane Shrina, ça vient nous parler du camp de la présence divine. Matkifla Ravine, alors Ravine a posé une question sur cette explication. Ima, Idiveidi, le Machane Shrina. Disons que ces deux versets, celui-ci et celui-là, parlent du camp de la présence divine. Alors, et donc, il y a ici deux choses. Premièrement, il devra sortir de ce camp. Et deuxièmement, il n'aura pas le droit d'y rentrer. Et donc ça vient nous dire que ici il transgresse cet interdit, il transgresse un commandement positif et un commandement négatif. C'est-à-dire que le verset a répété deux fois cet interdit pour le faire transgresser deux commandements. Alors on va répondre, Imken, si c'est ainsi, Leïmakra que le verset dise, et il sortira à l'extérieur du camp, et il n'y rentrera pas. Pourquoi avons-nous besoin de citer une deuxième fois le camp, Shmamina, donc ça vient nous entendre, l'itel lo machane achiret, que ici nous parlons d'un autre camp. Et donc de là nous apprenons que le Baal Kri, celui qui a eu un écoulement de matière séminale, doit être exclu des deux camps. Maintenant la Gemara rapporte un extrait de la Mishnah. Nous avons vu qu'il existe des choses que normalement on n'a pas le droit de faire Shabbat, mais lorsqu'on apporte le sacrifice de Pessah, ces choses repoussent le Shabbat et on a le droit de les faire. Une de ces choses, c'est « umichoy keravav », d'en vider les intestins. « Maï michoy keravav », que signifie vider les intestins? Ravuna Amar, Ravuna nous dit « shemenagvan besakin », qu'on les troue avec un couteau et automatiquement toutes les saletés en sortent. « Chiyabarav Amar, Chiyabarav nous dit « shirka de maya », nous parlons ici d'un liquide qui se trouve dans l'intestin, « de navka agav durka desakina », qui sort lorsqu'on le gratte avec le couteau. Et cela aussi, on a le droit de le faire Shabbat. Amar Ablazar, Ablazar nous dit, Maïta Amar de Chia Barav, quelle est la raison de Chia Barav, dit-il, car il est écrit, Vechorvot Mechim Garim Yochelu. Et la traduction littérale de ce verset nous dit, et les troupeaux errants dévoreront les riches possessions devenues des ruines. Mais la Gemara demande immédiatement, qu'est-ce que le Navi Eshaï vient nous apprendre ici? Maïmachar, qu'est-ce que cela veut dire? Alors il faut expliquer ce verset comme l'explique Rabbi Yosef. Venir saine des Rashiya et les possessions des Rashaim, des mécréants, tzadikaya et chasnoun, ce sont les justes qui les hériteront. Et donc en fait ici, que les troupeaux errants, ça fait allusion aux justes, et c'est eux qui vont donc dévorer les riches possessions devenues des ruines, c'est-à-dire les riches possessions des mécréants. Et donc, en fait, ici, nous voyons que Vecharvot, Mechim, les riches possessions devenues des ruines, en fait, ça vient, nous parlons ici, les riches possessions des mécréants. Donc, le mot Mechim, ici, nous parle des mécréants. Donc, ça fait allusion à quelque chose de mauvais. Et donc, de même, lorsque nous disons Michoui Keravav, en fait, c'est ici la même racine, Mechim Michoui. Donc, ça fait allusion à quelque chose de mauvais qu'il y a dans les intestins, et c'est ça que l'on fait sortir. Maintenant, la Gemara, après avoir expliqué qu'est-ce que le Michoui, la Gemara maintenant continue à expliquer le verset que nous venons d'amener. Et le début de ce verset nous dit Verao kevasim kedobram. Et alors les brebis pèteront partout comme dans leur pâturage. Et bien sûr, ici, les brebis, ça fait allusion aux justes du peuple d'Israël. Alors, Amar Menashe Bar Yirmiya. Menashe Bar Yirmiya a dit Amar Rav, au nom de Rav, que signifie kedobram, que nous avons traduit comme dans leur pâturage? Kimdou Barbam, il faut expliquer ce mot Kimdou Barbam, c'est-à-dire comme ce que l'on a parlé. Et donc en fait, les brebis pèteront comme ce que l'on a parlé. L'Agma demande, Maïkim du Barban, que signifie comme ce qu'on a parlé? Qu'est-ce qu'on a parlé? Amarabaye, Abaye nous dit, comme ce qu'on a parlé, c'est la suite du verset. Vechorvot mechim garim yochelu. Que les riches pâturages qui font allusion au bien des mécréants seront dévorés par les troupeaux errants, c'est-à-dire, ça fait allusion aux justes. Amar le Rav, alors Rav lui a dit, Bishla maiktiv chorvot kedeka amar. Je peux comprendre s'il avait été écrit dans la suite du verset, sans dire, et les riches pâturages. Nous ont dit, les riches pâturages. Alors en effet, c'est comme ce qu'il a dit, c'est-à-dire, kim dubar bam, comme ce qui a été parlé, et à ce moment-là, là, le verset vient s'expliquer. Ashta dirtiv, mais maintenant qu'il est écrit, ve chorvot, et les riches pâturages. Donc, milta achita, la suite du verset, en fait, c'est une seconde chose. Premièrement, il y a une première chose qui nous dit que les brebis pèteront comme ce qu'on a parlé. Et deuxièmement, et les riches pâturages seront dévorés par les troupeaux errants. Ce sont deux choses différentes. Et là, marava, et donc, vecharvat, alors maintenant qu'il y a le mot ve et, milta achite kama, c'est autre chose. C'est la suite du verset, c'est autre chose. Et donc, à nouveau, revient la question, Kim Dubarban, que c'est vu Kim Dubarban, comme ce que nous avons parlé. Et là, Amarab, alors, Rav nous dit, Kedé Rapranel, il faut expliquer comme Rapranel, Amarab, au nom de Rav, d'Amar Rapranel, Amarab, car Rapranel a dit au nom de Rav, Atidin Tzadikim, Shechayot Ametim. Dans le futur, les justes pourront faire revivre les morts. Comment nous le savons? Ktivacha, il est écrit ici, Verao Kvasim Kedobram, et les brebis pèteront comme ce qu'il a été parlé. Ktivatam, il est écrit là-bas, Yirou Bashan Vegilad Kime Olam, qu'il pâture en Bashan et en Gilad, comme au jour antique. Et la Gemara explique que signifie ce verset. Bashan, en terre de Bashan, Ze Elisha. Ça fait allusion à Elisha. Abba Mina Bashan, qui venait de Bashan. Shenema, comme il a dit, Ve Yani Ve Shafat Ve Bashan. Et Yani et Shafat étaient dans la région de Bashan. Vektiv, il est écrit, Po Elisha ben Shafat, ici il y a Elisha ben Shafat, Asher Yatak Maim al Yede Eliaou, qui a versé de l'eau sur les mains de Eliaou. Donc nous voyons que Elisha, son père, était Shafat, et Shafat vivait dans la région de Bashan. Donc de là, nous voyons que Elisha lui aussi vivait dans la région de Bashan. Et donc, lorsque nous parlons de Bashan, ça fait allusion à Elisha. Et Gilad, lorsque nous parlons de la région de Gilad, Ze Eliaou, ça fait allusion à Eliaou. Chez Neymar, comme il dit, Vayomer Eliaou à Tishbi, Mitoshve Gilad. Eliaou à Tishbi, qui était des habitants de Gilad, a dit. Donc nous voyons que Eliaou était des habitants de Gilad. Et donc nous voyons ici, nous parlons de Elisha et de Eliaou. Or, ces deux Nevim, ces deux prophètes, ont eu la possibilité de faire revivre des morts. Et donc nous voyons que nous parlons ici, et nous utilisons le mot Yirou, ils pèteront. Et donc nous voyons que, après, donc c'est pour cela que de là nous apprenons que lorsque après il est dit, Veraok Vasim Kedobram, et les brebis pèteront comme ce qu'il a été dit, alors c'est en fait, ça revient à nous dire comme ce qu'il a été dit à propos de Eliaou et de Elisha. Et donc c'est-à-dire qu'ils auront la possibilité de faire revivre les morts. Amar Rab Shmuel Bar Nachmani, Amar Rab Yonatan. Rab Shmuel Bar Nachmani a dit, au nom de Rab Yonatan, Atidin Tzadikim Sheyechayu Metim. Dans le futur, les justes pourront faire revivre les morts. Shenema, comme il dit, Od Yeshvu Skenim Uskenot Bechovot Yerushalayim. Encore s'assieront des vieux et des vieilles dans les rues de Jérusalem. Veish Mishanto Beyado Miroviami. Et chaque homme aura sa canne dans sa main, tellement il sera âgé. Vektiv, il est écrit dans un autre verset. Vesanta Mishanti Alpne Anar. Et tu mettras ma canne sur la face du jeune homme. Et là-bas, nous parlons d'un cas où un des prophètes a fait revivre le jeune homme qui était décédé. Donc nous voyons que nous utilisons le terme Mishenet, la canne, lorsque nous parlons de la résurrection des morts. Et donc c'est pour cela que lorsque nous parlons aussi lorsque dans les temps futurs, chacun aura une canne, ça vient nous dire que chacun aura la possibilité de faire revivre les morts. Oula Ramektiv. Oula apporte une contradiction entre les versets. Il est écrit dans le premier verset, Bila Mevet Lanetar, que Akadosh Baruch Hu avalera la mort à jamais, et donc il n'y aura plus de mort. Vektiv, il est écrit, Kianar Ben Meashanim Yamut, car le jeune homme de son temps mourra. Donc nous voyons que la mort existera dans les temps futurs. Alors nous allons répondre, Lokashia, ce n'est pas une contradiction. Kan Be Israël, Kan Be Akum. Ici nous parlons des Béné Israël, et là nous parlons des idolâtres. Et donc, les Béné Israël, eux, vivront à jamais, mais les idolâtres, non. La Gemara demande, Avde Akum, Maibawatam. Les idolâtres, alors, que font-ils là-bas? Ici, nous parlons des temps futurs. Quels furent les idolâtres là-bas? On m'a répondu, dire-t-il, car il est écrit, Ve'amedou zarim, ve'raout sonechem, ou bne nechar, ikarechem ve'chormechem. Des gens du dehors seront là pour paître vos troupeaux, des fils d'étrangers seront vos laboureurs et vos vignerons. Rafrizda rame. Rafrizda rapporte une contradiction dans les versets. Ktiv, il est écrit dans un premier verset, Ve'chafra alvana, ou bosha achama. Et la lune sera couverte de honte, et le soleil de confusion. C'est-à-dire que le verset nous dit qu'ils auront honte par rapport à la lumière que diffusera Akadosh Baruch Hu. Et d'un autre côté, il est écrit dans un autre verset, Vektiv, il est écrit dans un autre verset, Vaya or alevana keor achama, et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, veor achama, et la lumière du soleil, yeshivataim keor shivatayamim, sera sept fois plus forte que la lumière des sept jours lors de la création. Donc nous voyons que ce sera une lumière qui est très forte, et au contraire qui n'a pas honte. Alors ma réponse l'okasha, ce n'est pas une contradiction. Quand leur lamaba, ici nous parlons du monde futur, quand les matamachar, ici nous parlons de l'époque messianique, où les Shmuel, et d'après Shmuel, Damar qui a dit, En ben aolam azeli matamachar, el ashibud malchoyot bilvad, qu'il n'y a aucune différence entre ce monde-ci que nous vivons en ce moment, et l'époque messianique, seulement la soumission aux nations, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucune différence seulement, les Béné Israël ne seront pas soumis aux nations comme nous le sommes aujourd'hui. Alors, Maïkal et Mémar, qu'avons-nous à dire? Nous ne pouvons pas dire qu'à l'époque messianique, il y aura une lumière plus forte. Alors, Agma répond, Idivéidi, l'Olamaba, nous serons donc obligés d'expliquer que les deux versets, un qui nous dit que la lune aura honte, et l'autre qui nous dit que là, au contraire, la lumière va être très forte, nous parlons des deux cas dans le monde futur. Mais là, Kachia, malgré tout, ce n'est pas une contradiction. Kan Bemachane Shekhina, Kan Bemachane Tzadikim. Ici, nous parlons dans le camp de la présence divine, et là, nous parlons dans le camp des tzadikim, dans le camp de la présence des justes, dans le camp de la présence divine. Alors, la lumière sera très forte, et en effet, le soleil et la lune auront honte. Mais, dans le camp des justes, la lumière sera très forte, et le soleil et la lune n'auront pas honte. Rava Rami. Rava rapporte une contradiction entre les versets. Ktiv, il est écrit dans un premier verset. Ani amit verye, c'est moi qui tue et qui fait vivre. Ktiv, il est écrit dans un verset. Machatti vanir pa. J'écrase et je guéris. Alors, Gemara pose une question. Si déjà Kadosh Baruch Hu peut faire revivre, Mirpa Lokotchekel, n'est-ce pas la plus forte raison qu'il peut guérir? Alors, pourquoi avons-nous besoin d'expliquer, de dire dans le verset qu'il guérit? Et là, Kadosh Baruch Hu, en fait, il faut dire qu'Kadosh Baruch Hu a dit, Mash animemit animechaye. Ce que j'ai tué, cela je l'ai fait revivre. C'est Moshe Machati Vanirpa. De même que ce que j'écrase, c'est cela que je guéris. Et ce n'est pas que je tue certaines personnes et je fais vivre les autres. Et la Gemara continue sur ce chemin et rapporte une braïta dans les mêmes, qui porte la même explication sur ce verset. Tanoura Banan, ça je vous enseigne. Ani amit vechaye, c'est moi qui tue et qui fais revivre. Yachol mita be'echad vechaim be'echad. J'aurais pu penser qu'Akadosh Baruch Hu tue certaines personnes et fait vivre les autres. C'est-à-dire, mais nous ne parlons pas d'un cas ici qui fait revivre ceux qui ont été tués. Ainsi que le monde se conduit, comme on le voit de nos jours, certaines personnes vivent et c'est Kadosh Baruch Hu qui s'occupe de les faire vivre, et d'autres personnes meurent. Dans le monde de mal, le verset nous dit, Machati vanirpa, j'écrase et je guéris. Ma maka aurait foi, de même que le coup et la guérison, Becha, nous parlons de la même personne, on ne peut pas donner un coup à une personne et guérir l'autre. Il n'y a rien à guérir, l'autre qui n'a pas reçu le coup. Afmitad vechaim, de même lorsque le verset nous parle de vivre et de mourir, Be'echa, nous parlons de la même personne que Kadosh Baruch Hu fait mourir les personnes et après les fait revivre. Mais quand Teshuva, et de là c'est une réponse, l'Omrim, à ceux qui disent, Entriatametim et la Torah, que dans la Torah il n'est pas mentionné la résurrection des morts. D'abord, une autre explication, Batrila, Mash animemit, animechaye, au début, l'homme, lorsqu'il est décédé, c'est ainsi que je le fais revivre, c'est-à-dire s'il avait un défaut quelconque, il revivra lors de la résurrection des morts avec son défaut. Et après, une fois qu'on le fait revivre, ou machemachat, ve'adar, et après cela, machemachat, il va venir pas. Ce que j'ai écrasé, je le guéris. Et donc, après la résurrection des morts, une fois que chacun se relèvera avec son défaut, Kadosh Baruch Hu guérira aussi les défauts.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Et nous passons à la page suivante, Dav Samechet Amoudbet. La Gemara apporte maintenant un extrait de la Mishnah. Vehekter chalavav, et d'en faire brûler les graisses. Nous avons vu qu'il y a plusieurs choses durant, lorsque la veille de Pessah tombe Shabbat, que l'on a le droit de faire, bien que d'un Shabbat normal on n'a pas le droit de les faire, pour le sacrifice de Pessah, on a le droit de les faire. Une de ces choses-là, c'est d'en faire brûler les graisses sur l'autel. Tanya, nous avons enseigné dans une bretta. Amar Rabbi Shimon, Rabbi Shimon a dit, Boure kama chaviva mizo avishata. Viens voir combien est chérie une mitzvah lorsqu'elle l'accomplit au moment où on doit l'accomplir. Share ekter chalavim, car en faire brûler les graisses du sacrifice, vevarim et les membres, ou bdarim et les parties qui doivent être brûlées, chérim kola laila. Cette chose-là, on a le droit de le faire toute la nuit qui suit le sacrifice. Et donc en fait, lorsque la veille de Pessah tombe à Shabbat, on aurait pu attendre à la nuit pour faire brûler les parties du sacrifice qui doivent être brûlées. Malgré tout, vehem mamtinim naem achitachar. On n'attend pas qu'il fasse nuit pour les offrir sur l'autel et on transgresse le Shabbat. Pourquoi? Pour pouvoir accomplir la mitzvah au moment où on doit l'accomplir, c'est-à-dire immédiatement après avoir battu le sacrifice. Donc nous voyons que cette, la mitzvah est importante pour être accomplie en son temps. On permet de repousser le Shabbat. La Gemara rapporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Erkavato va'avato v'chule. Le porter de l'année de l'extérieur de la limite de Shabbat, etc. Cela ne repousse pas le Shabbat. C'est-à-dire on n'a pas le droit de faire ces choses-là lorsque la veille de Pessah tombe à Shabbat pour amener le sacrifice. Et la suite de la Mishnah nous dit, et d'en couper les verrues, c'est aussi interdit. Alors la Gemara demande, c'est-à-dire de couper les verrues du sacrifice. Alors la Gemara demande, nous, pourtant nous avons appris le contraire. Chotrin yabelet bamidash, on a le droit de couper les verrues d'un sacrifice au temple, lorsque le sacrifice se trouve à l'intérieur du temple, avalo bamdina, mais pas s'il se trouve à l'extérieur du temple, dans la limite de Yerushalayim. Veim bikli, et si on la coupe avec un ustensile, kan vekan asur, dans les deux endroits c'est interdit. C'est-à-dire, si on la coupe avec la main, normalement ce n'est interdit que d'ordre rabbinique, et c'est pour cela qu'au temple, c'est permis de le faire pour pouvoir accomplir une mitzvah, offrir ce sacrifice. Par contre, si ça se coupe avec un ustensile, ça c'est une chose qui est interdite par la Torah, et donc c'est interdit et à l'extérieur du temple et à l'intérieur du temple. Mais de toute façon, nous voyons qu'avec la main, à l'intérieur du temple, c'est permis, ça contredit ce que nous avons appris dans la Mishnah. La Gemara répond, Rabbi Lazar et Rabbi Zibba Chanina. Il y a deux réponses, une au nom de Rabbi Lazar et une au nom de Rabbi Zibba Chanina. Khadamar idibe idibeyad, un des deux Emoraïm a dit que dans les deux cas, dans les deux Mishnayot, nous parlons qu'il coupe la verrue avec la main. Habelacha abeyesha, et ici nous parlons que la verrue est encore humide, et là nous parlons d'un cas où elle est complètement sec. Et donc lorsqu'elle est complètement sec, alors à ce moment-là, ça c'est permis au temple. Mais lorsqu'elle est encore humide, c'est même avec la main, c'est interdit. Vechadamar, et l'autre a dit idibe idibelacha. Dans les deux cas, nous parlons d'une verrue lorsqu'elle est encore humide. Mais l'okaché, malgré tout, il n'y a pas une contradiction entre les Mishnayot. Abayad abekli. Ici, nous parlons, lorsque nous le permettons, c'est qu'il arrache avec la main. Et là, nous parlons qu'il arrache, qu'il la coupe avec un ustensile. Bon, la Gemara demande. Ouleman de Amar abayad abekli. Et d'après celui qui a dit qu'il n'y a pas de contradiction entre les Mishnayot et qu'une Mishnah parle qu'il arrache avec la main et l'autre qu'il la coupe avec un ustensile. Maitamalo amaridividi beyad. Pour quelle raison n'a-t-il pas dit l'autre réponse, que les deux Mishnayot nous parlent qu'il arrache avec la main, et malgré tout il n'y a pas de contradiction ici, nous parlons que la verrue est encore humide, et là nous parlons qu'elle est sec. Amalek, alors il te répond, Yevesha, lorsqu'elle est sèche, Mivrar Pricha, elle s'effrite tout seule. Et donc c'est sûr que cela est permis, il n'y a pas besoin de Mishnah pour nous dire une chose pareille. Et donc c'est pour cela qu'on ne peut pas dire que nous parlons dans une Mishnah que la verrue est sèche, et donc nous parlons qu'elle est encore humide, et c'est pour ça que nous avons expliqué de dire que la Mishnah qui nous permet nous parle qu'il arrache avec la main, et la Mishnah qui interdit nous parle qu'il arrache avec un ustensile. La Gemara demande, ou les mains d'Amari Diveidi Beyad, Velo Kashi Abelach Abeyevesha, et d'après celui qui a dit que la réponse est que les deux Mishnah nous parlent qu'il arrache avec la main, et malgré tout il n'y a pas de contradiction. Ici nous parlons que la verrue est humide, et c'est pour cela que c'est interdit, et ici nous parlons qu'elle est sèche, et c'est pour ça que c'est permis. Pour quelle raison n'a-t-il pas dit l'autre réponse, que les deux Mishnayot nous parlent d'une verrue humide, et il n'y a pas de contradiction ici, c'est qu'il c'est permis, parce qu'il arrache avec la main, et là c'est interdit, parce qu'il arrache avec il la coupe avec un ustensile. Pourquoi il n'a pas dit l'autre réponse? Alors il te dit, Keli, Aktane Atam, Imbekli, Kanbekanasu. Un ustensile, c'est déjà écrit explicitement là-bas, que si c'est avec un ustensile, dans tous les cas, c'est-à-dire et au temple et à l'extérieur du temple, il est interdit de la couper, donc on n'a pas besoin de le répéter. Veidar, alors la Gemara demande, et l'autre réponse, alors pourquoi avons-nous besoin de répéter à nouveau dans notre chapitre que si c'est avec un ustensile, on n'a pas le droit de la couper, étant donné que c'est déjà mentionné explicitement dans une boîte. Agmara répond, Adektane Kli Acha, la raison pour laquelle nous avons mentionné dans notre Mishnah qu'avec un ustensile, c'est interdit de la couper. Plukta de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua Talashminan. Ça vient nous dire que sur ce sujet-là, il y a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Et que ce n'est pas d'après tout le monde, mais que d'après Rabbi Yehoshua, en effet, il est interdit de couper cette verrue, mais d'après Rabbi Eliezer, cela est permis. La Gemara rapporte maintenant un autre extrait de la Mishnah. Amar Rabbi Eliezer a dit, Umaim Shrita Vekhule, si déjà la Shrita, etc. C'est-à-dire que nous avons vu, il y a une discussion entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer. Est-ce que les choses qui sont interdites d'ordre rabbinique, comme porter le sacrifice, ou l'amener de l'extérieur de la limite de Shabbat, ou en couper la verrue, est-ce que ces choses-là, il est permis de les transgresser pour pouvoir amener le sacrifice de Pessah en son temps? Nous avons vu que d'après Rabbi Yehoshua, c'est interdit, et d'après Rabbi Eliezer, c'est permis. Pourquoi? Rabbi Eliezer a un raisonnement. Si déjà la Shrita, qui est interdite par la Torah, il est permis de le faire, alors plus forte raison que ces choses qui ne sont interdites que d'ordre rabbinique. Rabbi Yehoshua, lui, a repoussé ce raisonnement en amenant une preuve des jours de fête. Nous voyons que les jours de fête, les choses qui sont interdites par la Torah, il est permis de le faire lorsqu'on a besoin de manger, par exemple cuisiner. Par contre, les choses qui ne sont interdites que d'ordre rabbinique, ce n'est pas permis de les faire. Rabbi Eliezer lui a répondu que cette preuve n'était pas une preuve. Pourquoi? Parce que les jours de fête, la raison pour laquelle on veut faire ces choses-là, c'est des raisons facultatives. Par contre, là, la veille de Pessah, lorsque nous voulons transgresser le Shabbat, c'est afin d'accomplir une mitzvah. Donc en fait, il n'y a pas de preuve. Alors la Gemara maintenant se rapporte sur cette discussion entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer à propos du jour de fête. D'après Rabbi Eliezer, c'est quelque chose de facultatif, et donc on ne peut pas en amener une preuve. Par contre, d'après Rabbi Yehoshua, lui, qui en ramène quand même une preuve du jour de fête au jour de Shabbat, c'est la preuve qu'il pense que c'est une mitzvah, étant donné qu'il compare les deux éléments, le fait d'amener un sacrifice de Pessah lorsque la veille de Pessah tombe un Shabbat, et le fait de préparer à manger un jour de fête. Alors la Gemara répond, la Gemara nous dit, Rabbi Yehoshua l'etame, Rabbi Yehoshua suit sa propre opinion, d'Amar, car il a dit, Simchat Yom Tov, le fait de se réjouir un jour de fête, et ça inclut donc de manger, Nami Mitzvahi, c'est aussi une mitzvah. Et donc, transgresser un interdit d'ordre rabbinique pour pouvoir manger un jour de fête, c'est pour pouvoir accomplir une mitzvah. Et donc, ça revient à transgresser un interdit d'ordre rabbinique pour pouvoir amener le sacrifice de Pessah. Et on peut amener une preuve de l'un à l'autre. D'Etania, quand nous avons enseigné dans une braïta, Rabbi Eliezer nous dit, En lo l'adam be'om tov, un homme ne doit se conduire un jour de fête seulement et à o ochel veshoté, ou il ne fait que boire et manger, o yoshev veshoné, ou il s'assoit et étudie toute la journée. Mais on ne fait pas moitié-moitié. Par contre, Rabbi Yehoshua pense, on doit partager le jour de fête en deux. La moitié, on devra manger et boire et se réjouir. Et la seconde moitié, on devra rester à la maison d'études. Donc nous voyons en fait que d'après Rabbi Yehoshua, il y a une mitzvah de manger et de boire le jour de fête. Et donc c'est pour cela que l'on peut amener une preuve de transgresser un interdit d'ordre rabbinique afin de pouvoir manger un jour de fête au fait de transgresser un interdit d'ordre rabbinique pour pouvoir amener un sacrifice le jour de Shabbat. Les deux choses, c'est afin d'accomplir une mitzvah. Par contre, d'après Rabbi Eliezer, il n'y a aucune mitzvah de manger un jour de fête, et donc on ne peut pas amener une preuve de l'un à l'autre. Vama Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit, Veshnem et les deux, Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, Mikra et Chadashu, eux l'ont appris d'un seul verset. Ils ont étudié un seul verset, et de ce verset, ils ont appris, est-ce qu'il faut être moitié-moitié, ou entièrement pour Akadosh Baruch Hu, ou entièrement pour l'homme. Car un verset nous dit, Atzeret l'Hashem Elokecha, ce sera une fête pour Hashem ton Dieu. Et un autre verset nous dit, Atzeret Tielachem, ce sera une fête pour vous. Alors Rabbi Eliezer pense, Okulo l'Hashem, que les jours de fête c'est ou entièrement pour Akadosh Baruch Hu, Okulo l'Hashem, ou entièrement pour vous. Mais Rabbi Yehoshua Savar, par contre Rabbi Yehoshua lui pense, non, Chalkeu, on devra diviser le jour de fête en deux. Chetio l'Hashem et Chetio l'Hashem. Il sera une moitié pour Akadosh Baruch Hu, et une moitié pour vous. Amar Rablazar nous dit, Akol modim be'atzeret. Tout le monde est d'accord que à Shavuot, de ba'enan namilachem, qu'on doit aussi se réjouir nous, c'est-à-dire on devra aussi manger et boire. Ma'etama, pour quelle raison même Rabbi Eliezer est d'accord sur ce point-là à Shavuot? Yoshelina Botora, c'est le jour où la Torah a été donnée. Et Rashi nous explique, on doit donc montrer qu'il est agréable d'avoir reçu la Torah, même pour les hommes. Et donc, on devra le prouver en montrant un profit physique, en mangeant et en buvant, et en se réjouissant. Amar Rabba, Rabba nous dit, Akol modim be Shabbat, tout le monde est d'accord à propos de Shabbat, de ba'enana milachem, qu'on a besoin aussi de, pour vous, c'est-à-dire de manger et de boire. Maïtama, pour quelle raison? Il est écrit dans le verset, Vekarata la Shabbat oneg, et tu appelleras le Shabbat un délice. Amar Rabbi Yosef, Rabbi Yosef nous dit, Akol modim be Purim, de ba'enana milachem. Tout le monde est d'accord à propos de Purim, que l'on doit aussi manger et boire. Lachem, ce sera pour vous, c'est-à-dire pour les hommes, manger et boire. Maïtama, pour quelle raison? Il est écrit explicitement dans le verset, Yeme mishte osimcha, ce sont des jours de festin et de réjouissance. Ktive, il est écrit à propos de Purim. Mar bere de Ravina, Mar, le fils de Ravina, kula shata avayativ betanita. Toute l'année, il jeûnait. Le bar me'atzarta, à part le jour de Shavuot, ou Puraya, et le jour de Purim, ou ma'ale yoma de Kippure. Et le veille du jour de Kippour. Alors, la Gemara explique immédiatement pourquoi. À Teret, le jour de Shavuot, Yom Shinina Botora, c'est le jour où la Torah a été donnée. Pour Aya, le jour de Purim, Yemé Mishte Osimfraktiv. Il est écrit à propos de Purim que ce sont des jours de festin et de réjouissance. Ma'ale Yoma de Kippour. Et pour quelle raison aussi, la veille du jour de Kippour, ne jeûnait-il pas? Netane Chia Barav Midifti, car Chia Barav de Difti a enseigné. Veinitem et nafshotechem batisha la chodesh. Et vous mortifierez vos âmes le 9 du mois. Alors, la question se pose. Vechi batisha mitanim. Est-ce que c'est le 9 du mois que l'on jeûne? Valo basiri mitanim. Pourtant, c'est le 10 du mois, le 10 tishrei que l'on jeûne. Le Yom Kippour, c'est le 10 tishrei, ce n'est pas le 9. Et là, l'omalecha, alors ça vient te dire. Kol haochel veshote batisha bo. Quiconque mange et boit le 9 du mois, c'est-à-dire la veille du jour de Kippour, le verset le considère qui est l'omitané de Chiv et Asiri. C'est comme s'il jeûnait le 9 et le 10. Donc nous voyons qu'il y a une mitzvah de manger la veille de Kippour. Et donc c'est pour cela que Mar, le fils de Ravina, ne jeûnait pas la veille de Kippour. La Gemara continue nous dit, Rabbi Yosef, Beyuma de Atzerta, Rabbi Yosef, le jour de Shavuot, Amar, il disait aux gens de sa maison, Abdeli Iglatilta. Faites-moi un votilta, c'est-à-dire le troisième qui est sorti de sa mère. Car à l'époque de la Gemara, on disait que les veaux, les meilleurs veaux, c'était ceux qui étaient nés en troisième. Et donc Rabbi Yosef disait, faites-moi un veau comme ça, car ce sont les meilleurs veaux. Donc faites-moi en fait de la bonne viande. Pourquoi il disait, faites-moi de la bonne viande? Amar, il disait, ilo hayoma, si ce n'était pas ce jour-là, des kagarim qui avaient entraîné que la Torah a été donnée, kama Yosef ikabeshuka, combien de Yosef y a-t-il dans le marché? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que moi, Rabbi Yosef, je suis différent que tous les Yosef qu'il y a dans le marché? C'est parce que j'ai étudié la Torah. Grâce à quoi j'ai eu le mérite d'étudier la Torah? Grâce au jour où la Torah a été donnée. Donc ce jour-là, il faisait une fête. Rab Shechet, koltlat in yumin mehader le talmude. Tous les 30 jours, il révisait toute son étude. Et il se tenait sur le pas de la porte, et Amar, il disait, Chadaï nafshai, réjouis-toi mon âme, l'Arkari, c'est pour toi que j'ai étudié les versets, l'Artani, c'est pour toi que j'ai étudié la Gemara. Alors, Agma demande, ni, ah bon, et Amar et Blazar, pourtant, Blazar a dit, il m'allait Torah, si ce n'était pas la Torah, le ciel et la terre n'auraient pas pu exister, chez Neymar, comme il est dit dans le verset, Imlo beriti, si ce n'était mon alliance, yomam balaila, le jour et la nuit, chukot shamaim va'aret, les règles du ciel et de la terre, lo santi, je n'aurais pas décrété. C'est-à-dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a mis les règles de la nature, du jour et de la nuit, étant donné qu'il y a son alliance, c'est-à-dire la Torah. Et donc nous voyons qu'en fait, la raison pour laquelle un homme étudie la Torah, c'est afin de que le ciel et la terre existent et non pas pour son âme. Alors, la Gemara répond non, mais car c'est au début, qui a abidinish, lorsqu'un homme fait ces choses-là, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah, adata de nafshe kavid, il le fait pour lui-même. Mais de toute façon, ce que nous avons vu donc dans cette étude, c'est qu'il y a une discussion entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eleazar, est-ce que de manger un jour de fête, c'est quelque chose de facultatif, ou est-ce une mitzvah? Et c'est pour cela que d'après Rabbi Eleazar, étant donné que c'est quelque chose de facultatif, on ne peut amener une preuve de manger le jour de fête au fait d'amener un sacrifice de Pessah, lorsque la veille de Pessah tombe un Shabbat. Et donc c'est pour cela que le raisonnement de Rabbi Eliezer, qui est que si déjà on a permis la Shrita, chose qui est interdite par la Torah, afin d'accomplir la mitzvah, à plus forte raison que l'on devrait permettre, par exemple, d'arracher une verrue, chose qui n'est interdite que d'ordre rabbinique pour pouvoir accomplir une mitzvah. Rav Gamliel nous dit, Amar Ravashi, Ravashi nous dit, ou les mailles de Kamar Rablezer n'a mis Yom Tov Reshut, même d'après ce que Rablezer a dit, que le jour de fête, ce n'est que facultatif de manger, et il n'y a aucune mitzvah de le faire, malgré tout, on peut repousser son raisonnement. It le picha, on peut refuter son raisonnement. Uma yom tov shitir bo melacha shel reshut lo etir shvut sheima, si déjà les jours de fête où l'on a permis de transgresser les interdits par la Torah, par exemple de cuisiner, pour quelque chose de facultatif, par exemple si on a faim, hein, et malgré tout, on n'a pas permis les interdits d'ordre rabbinique, alors Shabbat, les jours de Shabbat, chez l'Oitirbo et la Melachashanimda, où l'on a permis de transgresser les interdits par la Torah que pour afin d'accomplir des mitzvot, comme par exemple amener le sacrifice de Pessah la veille de Pessah lorsque la veille de Pessah tombe à Shabbat, et nos dînes chez l'Otatirshvut Sheima, n'est-ce pas à plus forte raison, alors que l'on ne permettra pas de transgresser les interdits d'ordre rabbinique accompagnant ce sacrifice, c'est-à-dire afin de permettre de l'offrir. C'est-à-dire qu'en fait, on compare ce que l'on permet de transgresser le jour de fête à ce que l'on permet de transgresser le Shabbat. Si déjà le jour de fête, on permet de transgresser que les interdits par la Torah et pas les interdits d'ordre rabbinique, alors le Shabbat aussi, lorsqu'on permet de transgresser le Shabbat pour accomplir une mitzvah, c'est, on ne permet de transgresser que les interdits par la Torah et pas les interdits d'ordre rabbinique.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.